Lire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire. Oui dire.
Oui dire. Sur Radio Campus 93.3. Oui dire. Bienvenue à toutes les oreilles qui nous prêtent leur attention en ce moment. Bienvenue sur Radio Campus 93.3 et surtout, bienvenue dans notre émission Oui dire, consacrée à la littérature orale, aux arts de la parole et plus particulièrement aux contes. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'écouter une interview et un extrait du spectacle du conteur Pascal Quéré, qui est venu présenter ses Mille et une nuits à la bibliothèque de Volvic au début du mois. Cette interview a été réalisée par Christine Buteau-Bourguignon. Christine, si tu nous écoutes, merci. Laurent Marty nous proposera une nouvelle chronique ethno autour du rapport des prénoms avec la littérature orale. C'est bien ça, Laurent ?
Oui, oui, c'est bien ça.
Frédéric sera là et nous nous tiendrons au courant de ce qui se passe dans le monde de la parole. Bonjour Fred.
Bonjour.
Et bien sûr, rien ne serait possible sans l'aide précieuse de Pierre Vial. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et dans l'ombre du studio, aujourd'hui, c'est Monique Picard-Defix qui nous écoute attentivement et nous soutient silencieusement. Bon, bah maintenant, je crois que la parole est à toi, Laurent.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans notre chronique ethno, je vais vous parler des prénoms. C'est une bonne entrée pour découvrir la littérature orale. Mais qu'est-ce que les prénoms ont à voir avec la littérature orale et le conte, me direz-vous ? Voilà, vous vous appelez Pierre, Marie-Paul, Marie, Paul, Jeanne ou Leïla. Vous avez nommé vos enfants Emma, Lucas, Manon ou Louis. Là, ces derniers prénoms, c'est les prénoms les plus utilisés ces dernières années. Eh bien, chacun de ces prénoms est porteur d'histoire. Je mets le mot « histoire » au pluriel parce qu'il y a plusieurs niveaux d'histoire. D'abord, dans votre prénom, c'est peut-être une histoire de famille. On vous a appelé Édouard parce qu'il y avait un grand-père ou un oncle qui portait ce prénom et vos parents ont voulu transmettre sa mémoire. Dans les prénoms, il y a un autre niveau, plus général, qui vient de la tradition culturelle. Iman, qui figure dans le top 200 en France, signifie « croyance » et « foi » en arabe. On dit que les Iman, I-M-A-N-E, sont paisibles. Ils veillent sur ceux qu'ils aiment. Marie, figure féminine maternelle de la religion catholique, Marie fait partie de ces prénoms qui ne sont jamais passés de mode. Il y avait beaucoup de Marie dans les années 1950, il y a toujours beaucoup de Marie dans les prénoms aujourd'hui. Le prénom raconte donc quelque chose de l'histoire familiale et de la culture dont nous faisons partie. Un autre niveau, enfin, est celui de l'ère du temps. Voyez Emma, par exemple. C'est depuis plusieurs années le prénom le plus répandu. Pour certains, c'est la référence à Emma Bovary, l'héroïne du roman de Flaubert, qui s'ennuyait dans un mariage morne et rêvait d'un amour romantique. Remarquez au passage le phénomène d'écho avec la littérature, le cinéma, les séries télévisées et la chanson. Combien de Nathalie ont été inspirées par la chanson de Gilbert Bécaud ? Combien de Cécile par Cécile, ma fille de Nougaro ? Pour revenir à Emma, plusieurs chansons lui ont été dédiées, une par Nicole Croisy et une autre par Les Têtes Raides avec Jeanne Moreau, que vous allez entendre maintenant.
Emma, Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Emma telle, Emma, Emma, pourquoi moi ?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là ?
Emma, Emma, Emma telle, Emma, moi.
Quand on s'ennuie, on se dit que c'est beau, la vie. La loupe pas, elle passera qu'une fois. Entre les cordes d'une mélodie. La sol fa si, c'est pas si fa, sol la.
Si tu le veux, on s'en fout plein les yeux. Entre les dents, la chair et du ciment. Au pire du mieux, on sera seul, on sera deux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Emma, Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Mais Emma telle, Emma, Emma, pourquoi moi ?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là ?
ma méma, mais ma télé, ma moi. La 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 la. Pas la vie, s'il n'y a pas la folie, la lâche pas, elle passera qu'une fois. Dans de bien belles, belles mélodies, si ré la do, c'est pas doré, si la.
J'ai pas si mieux, mais je te boufferai les yeux. On est vivant tant qu'il est temps, encore temps. Comme on est deux, on sera seul, on sera mieux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment.
Et ma méma, je ne sais pourquoi, Emma.
Méma, telle Emma, Emma, pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Et ma méma, méma, telle Emma, moi.
C'est une rencontre, c'est la vie, parce que je suis ouverte à tout, je suis prête à tout. Ça m'intéresse. C'est pour partager une expérience avec quelqu'un.
Et ma méma, je ne sais pourquoi. Et moi.
J'aime bien partager le désir des autres. Ça me plaît beaucoup. Ah oui. Oui, parce que ça m'entraîne dans des chemins de traverse.
Et ma méma, méma. Pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre? Et pourquoi pas...
Voilà, donc vous avez entendu Emma chantée par les Têtes Raides avec Jeanne Moreau. Chaque prénom donc porte des histoires. Chez nous, dans notre culture, c'est une histoire, on pourrait dire, sous-jacente, c'est-à-dire qu'on la raconte de manière informelle dans la conversation ordinaire. Soit dit en passant, la conversation ordinaire, ça fait aussi partie de la littérature orale. Il y a des très bons conteurs de la conversation. On dit par exemple, j'ai appelé ma fille Thelma parce que j'ai adoré le film Thelma et Louise. Chez les Indiens Crees d'Amérique du Nord, l'histoire est plus organisée, plus formalisée. Non pas par écrit, parce qu'ils n'utilisaient pas couramment l'écriture, mais sous la forme de poèmes. Chaque nom était accompagné d'un poème qui en racontait l'histoire. C'était des noms qu'on attribuait au moment où l'enfant entrait dans le monde adulte. Par exemple, un garçon fut nommé celui qui a vécu seul, celui tiré qui tirait a vécu seul. Parce qu'un été, il avait décidé de partir vivre seul dans la montagne. Quand on parlait de lui, on racontait le poème qui accompagnait son nom. On disait que chez les Crees, quelqu'un était vraiment mort quand plus personne ne se souvenait de l'histoire qui allait avec son nom. C'est ainsi qu'une jeune fille chez ces Indiens Crees d'Amérique du Nord fut nommée Réveillée en Héron. Réveillée en Héron. Écoutez le poème qui accompagnait son nom.
Elle était grande. Vous pouviez la voir de loin avant quiconque. Une fois, à la fin de l'été, elle resta debout un si longtemps en bordure du marais que nous avons pensé qu'elle se tenait prête à partir avec les Hérons. Vous pouviez la voir, debout, parfaitement immobile. Le jour où les Hérons partirent, elle demeura. Le jour suivant, elle se réveilla jeune fille, certes, mais elle commençait à être un Héron. Elle se mit à faire de longs pas, lentement, comme si elle marchait dans l'eau, chassait dans l'eau. Cela est vrai, et elle allait ainsi en faisant des bruits de Héron. Et elle avait de minces branches attachées à ses pieds pour faire des empreintes de Héron. Cela disparut le lendemain matin. Chacun était heureux qu'elle n'aille plus dormir dans les roseaux. C'est la première fois que nous avons vu quelqu'un faire cela. Aussi l'avons-nous nommé, pour ne pas l'oublier, Réveillée en Héron.
Voilà donc pourquoi cette jeune fille fut nommée Réveillée en Héron. Un jour, elle a voulu se rapprocher de cet animal à la fois sauvage et familier qu'est le héron, et peut-être même voler comme ce grand oiseau aux larges ailes. C'est donc quelque chose de sa personnalité que nous fait entendre le poème avec toute la finesse de la métaphore. En même temps, le poème transmet des informations sur la culture des Indiens Crees et plus largement d'ailleurs sur les Amérindiens. Dans ces ethnies qui obéissaient à des contraintes extrêmement rigoureuses, Des règles très dures, on était très proche de la nature, la vie était rude. On admettait qu'une personne, et notamment un jeune, puisse faire des écarts. Réveillé en héron, on n'a pas été diagnostiqué dans telle ou telle pathologie. Au contraire, sa spécificité a été valorisée au point qu'on en a fait son nom. La littérature orale, ce sont ces histoires qu'on se raconte en direct, de bouche à oreille, par ouï-dire. Les prénoms font partie du vaste univers de la littérature orale. Ils en sont une des formes les plus courantes, les plus ordinaires et, je dirais, les plus accessibles. Il suffit de regarder autour de soi les personnes que nous rencontrons et leurs prénoms sont autant d'histoires qui se croisent autour de nous, chacune avec ses couleurs et ses musiques. À suivre dans nos prochaines émissions. Et pour terminer cette chronique, comme promis, je vous recommande deux livres. Bon, d'abord le livre dans lequel il y a ce poème des Amérindiens, qui s'appelle « Partition rouge, poèmes et chants des Indiens d'Amérique du Nord » de Florence Delay et Jacques Roubaud. Et ensuite, un autre livre sur le conte en général de Dan Yashinsky, Yashinsky. Dan Yashinsky est un conteur canadien et il a écrit un excellent livre qui sur le conte qui s'appelle « Soudain, on entendit des pas » aux éditions Planète Rebelle. Je vous en parlerai dans une prochaine chronique.
Nous venons d'écouter Janine 3, un morceau présent sur l'album de Camille intitulé Le Fil. À présent, prêtons nos oreilles à la voix du conteur Pascal Quéré qui nous parle de son métier, questionné par notre intrépide Christine.
Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, nous venons de passer 4 heures de voyage autour des mille et une nuits avec Pascal Quéré, qui qui a offert un spectacle à quelques Auvergnats. Dommage, ils n'étaient pas nombreux, mais tant pis pour eux. Et du coup, avec Radio Campus, ben, on a envie de profiter de ce petit moment privilégié et de continuer encore cette aventure pour vous la faire partager. Alors Pascal, j'ai une petite question habituelle, j'ai envie de dire, pour les conteurs. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu et où vas-tu?
Alors, qui es-tu? Ben, en essayant de pas m'identifier, je réponds, je suis conteur. Voilà, j'ose le dire parce que j'ai douté tellement d'années que j'avais le droit de l'être que maintenant, quand je le dis vraiment, voilà, je suis conteur. J'ai plus besoin de me prouver, de raconter 50 nuits de suite pour me dire, ah, peut-être je pourrais envisager d'être conteur. Je suis conteur. Je suis pas conteur de tradition, donc en fait, il m'a fallu que je m'accepte comme conteur, voilà, et j'adore. Donc je suis un humain qui compte, des contes qui viennent de très loin et qui ont la chance de m'avoir choisi, et moi aussi je les ai choisis, on s'est choisis. Donc voilà, la réponse elle est simple. Après, comme être humain, je suis, disons, tourné vers ce que dans les contes j'appelle la sagesse. C'est-à-dire, voilà, j'essaye de voir au-delà des apparences, j'essaye de comprendre ce qui se passe et puis d'inventer des solutions qui ne soient pas guidées par la peur, mais qui soient guidées par la confiance, voilà, des choses comme ça. Donc, je suis un conteur sur le chemin de la sagesse.
Les contes te guident.
Voilà, et c'est vrai que les contes, ils me permettent d'aborder tous ces sujets qui m'attirent.
Voilà. Et qui te touchent profondément.
Et qui me touchent profondément. Et j'essaye d'en parler d'une façon qui soit la plus légère possible, parce que je ne fais pas de conférences, je compte des contes. Je ne suis pas un prof, je compte des contes. C'est pas la même chose. Donc il faut quand même faire passer, entre guillemets, des messages. Je déteste cette expression, mais c'est quand même bien ce qui se passe. Mais c'est quand même le récit qui prime.
Et voilà. D'où vient le conteur qui est en toi?
Alors, d'où vient le conteur qui est en moi? Je n'en sais totalement rien. Je sais qu'il est là depuis très longtemps, comme finalement souvent les vocations. Quand on demande à quelqu'un, ben en fait depuis tout petit j'ai eu envie de raconter. On n'avait pas de télé, on n'avait rien, et je racontais quand même à mon frère. J'inventais des histoires, je faisais croire que j'étais une radio. Et depuis très longtemps, depuis que j'ai peut-être même avant 8 ans, j'ai des souvenirs d'avant 8 ans de déjà jouer à ça. Voilà. Et puis ben ensuite voilà, les circonstances de la vie m'ont mis en situation de raconter, soit parce que je l'ai choisi, soit parce qu'on me l'a demandé. Et que je me rappelle que on était avec des amis, on faisait de la randonnée là quand j'avais 18 ans, et je leur disais, oh là là, j'aimerais tellement que vous lisiez, que vous me lisiez des trucs. Ils disaient, non, toi tu lis mieux que nous. Bon, bah du coup, donc je peux dire que finalement je réponds à
la demande,
non, à une demande de moi. C'est-à-dire je fais ce que j'aimerais qu'on me fasse.
As-tu plaisir justement à aller écouter les histoires?
Ah oui, je suis un très bon public. Malheureusement, je suis un très mauvais public aussi. C'est-à-dire que je décroche très vite quand je sens que la personne n'est pas dans sa vraie voie. F-V-O-I-E et V-O-I-X. Mais V-O-I-X, là, ce serait prétentieux de dire quelle est sa voix. Mais sa vraie voix, V-O-I-E, je recommence. C'est gouré. Dans sa vraie voix, V-O-I-X. Sa voix. Voilà. Ça, je l'entends. Et sitôt que la personne n'est pas dans sa voix, je peux plus l'écouter. Je regarde par terre, je suis gêné. Donc j'ai besoin qu'il y ait une vérité dans ce que la personne partage.
Quand le conteur se trompe d'histoire, en fait, les histoires qui ne lui viennent pas.
Soit il se trompe d'histoire, soit il n'ose pas. Enfin, il ou elle n'ose pas aller au plus près de qui elle est. Mais je juge pas, parce que j'ai mis très longtemps, moi, à oser. Après, on va me dire, oui, mais il faudrait savoir qui on est. Ben oui, sauf que c'est aussi en essayant qu'on s'approche de qui on peut être. Donc finalement, il faut bien qu'à un moment, quelqu'un ose quelque chose. Et trop souvent, on n'ose pas. Soit parce qu'on est prisonnier d'un personnage, soit parce qu'on est dans la peur. On nous a appris qu'il fallait pas se faire remarquer. On rase les murs ou on devient un peu gris, sans aspérité, voilà, tout ça. Donc je suis très sensible à ce que la personne soit la plus vivante possible pour elle-même. Je dis ça pour les gens et évidemment j'essaye moi de l'être. Après, on peut ne pas y arriver, mais quelqu'un qui a envie, même s'il n'y arrive pas, ça se sent qu'il a envie et du coup pour moi il est dans sa voie. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
C'est clair, parce que justement la prochaine question c'est que fais-tu? Et je pense que quelque part tu viens déjà de répondre puisque tu emmènes les gens sur cette voie en proposant des stages et des formations.
Alors voilà, ça c'est le miracle de notre possibilité d'être conteur aujourd'hui, c'est ce mélange de situations. Alors moi j'aime pas le mot spectacle pour le conte. J'aime bien le mot séance, j'aime bien le mot rencontre. Je trouve que spectacle n'est pas adapté à ce que nous faisons. Moi, je n'ai pas fait ce soir, j'estime que je n'ai pas fait un spectacle. J'ai conté à ma façon. Donc on est en position comme ça, voilà, de conter. Et on peut aussi, si cela nous intéresse et si les gens nous suivent, eh bien, être en position de soit de transmettre, soit de partager les recherches qu'on a pu faire et de proposer des techniques, des tentatives, des exercices. Et je suis passionné par la transmission, par l'explication. Plus j'explique, plus je comprends pour moi-même. Ce qui est vraiment d'une banalité, c'est ça, le vrai enseignement, c'est ça. Et je le vis vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la transmission. Et pareil, c'est-à-dire pour moi, j'essaie de transmettre donc de la technique, mais également, voilà, le côté humain. Voilà. C'est-à-dire, en gros, qui êtes-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Toutes ces questions, et que ce soit dans les contes, donc dans le choix du conte, un choix qui soit adapté, après dans la façon de le conter, qui soit aussi adapté, avec en utilisant sa propre palette d'expression, d'intonation, de variation, voilà, hein, et donc d'essayer de que ça fonctionne.
Voilà. Et toi maintenant, avec tout ce que tu sais, donc je pense que tu as créé des histoires, hein, tu en parles en début un petit peu, non, pas spécialement.
Pas spécialement, non, je l'ai eu fait deux fois et ça a été plutôt des fiascos monumentaux, mais l'expérience était belle, mais le résultat était pas bon parce que il manquait la distance que j'ai avec des récits qui ne sont pas de moi, qui sont d'ailleurs. Et là, je l'avais plus. Donc, du coup, j'étais dans l'émotionnel, j'étais dans la réaction, j'étais empêtré. Et n'étais plus dans ma voix.
Mais au moment de l'écriture ou au moment de le conter?
Non, j'écris pas dans ces cas-là. Je n'écris pas. Je compose avec, ce qui me vient, quoi. Mais il n'y a pas d'écrit, c'est uniquement des notes. Parce que je privilégie ce qu'on pourrait appeler l'écriture orale et non pas l'écriture écrite. Hein, donc c'est très important pour moi de bien faire la différence. Ça veut dire que je ne veux pas être prisonnier d'un texte écrit. Il faut que c'est au moment où je raconte que l'écriture se fasse et qu'il ne soit pas une écriture écrite.
Oui. Et maintenant, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu partages et inities, eh bien, avec tout ça, où vas-tu?
Ah, la bonne question. Parce que là, dans un sens, je pourrais dire, mais j'ai atteint mon but. J'ai atteint le but que j'avais, qui se dessinait, enfin, plutôt qui s'est ouvert quand j'avais 24 ans, quand vraiment j'ai choisi d'être conteur. Je peux dire que je l'ai atteint. Donc, dans un sens, soit je peux dire, ça y est, je peux mourir, c'est bon, c'est atteint. Et puis, finalement, de me dire, il est atteint, oui, mais d'abord, il y a beaucoup de contes des Mille et Une Nuits que je ne sais pas encore dire, donc ils sont en apprentissage. Et comme je suis très long à apprendre, j'en ai encore pour un moment avant de les intégrer, puisque je n'apprends pas de texte. Donc finalement, ben je peux pas encore mourir parce qu'il faut que je les dise. Donc où je vais? Eh ben je vais dans l'honneur du répertoire que je peux présenter. Voilà. C'est-à-dire j'ai des récits en attente qui sont tellement beaux que malheureusement je me suis empêtré dans une attitude qui fait qu'ils sont tellement beaux que j'ai peur de les rater. Donc finalement où je vais, eh ben il faudrait que j'aille vers le courage de les dire, parce que sinon eh ben je peux les rêver pendant des années, ne jamais les dire. Et là j'estime que si je meurs et je les ai pas dit, j'ai peur de me faire engueuler là où j'irai. C'est-à-dire, comment ça, on t'a filé un répertoire de fou, des contes super beaux, et toi tu les as gardés tout seul. C'est la pire des horreurs qu'un conteur puisse faire. Donc où je vais vers mon courage de les dire.
Donc nous laisse beaucoup d'années devant nous à pouvoir passer les mille et une nuits en ta compagnie.
Voilà.
Et s'il y aurait une dernière parole à faire partager avec les auditeurs de Radio Campus, en ce soir si tard?
Ce serait de oser l'audace d'être juste pour soi-même, hein, pas juste dans l'absolu, juste pour soi-même, mais juste la démesure peut être juste pour quelqu'un, et la retenue peut être juste pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, oui, nous sommes des énigmes. Pour autant, trop souvent, on se retient, on se complaît à être dans un confort ou dans une petitesse comme ça. Parce que, et je pense que le monde a besoin de gens qui soient en épaisseur, qui soient denses, qui soient tendus et en même temps souples. Voilà, c'est ça que j'appellerais l'audace. Et c'est vrai que le conte l'offre, mais je suis persuadé que tous les arts l'offrent, et même si on n'est pas artiste, la vie nous l'offre. Voilà. Mais c'est vrai que le conte, disons que je trouve que c'est un message qu'il porte bien et qu'il partage bien. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que je raconte d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pour ça que je raconte. Pour pouvoir dire et redire ce genre de choses. Voilà.
Eh bien, Pascal Kirèche, je te dirais, moi, juste merci et au revoir.
Merci beaucoup, au revoir et bonne chance à cette émission.
etiketi göremedim boyunu. Kendi küçük de bilemedim huyunu da yar yar yar.
C'était un extrait des Rives, un album de Titi Robin. Bon, après la théorie, la pratique. Voici maintenant un conte dit par Pascal Quéré lors de la nuit des mille et une nuits à Volvic. Un conte quelque peu coquin.
Sachez qu'il y avait autrefois dans la Tosotia, dans les temps reculés, une femme qui, pour son malheur, était l'épouse d'un de ces mangeurs de hachiches. Mais il y a plusieurs mangeurs de hachiches. Il y a ceux que le hachiche, disons, visite par une sorte de grâce et qui leur permet de trouver des expédients qui, pourquoi pas, les fait atteindre le niveau d'un roi. Et d'autres que le hachiche pétri. Et donc le mari de cette femme était de la sorte du pétri. Et ce qu'il fait, qu'en vérité, il ne savait plus comment il s'appelait, il ne savait plus où était sa maison, il fallait qu'on le ramène, et elle n'en pouvait plus. En plus, il était vieux, il ne servait plus à rien, mais il n'avait qu'une qualité, c'est qu'il était riche. Or, bien entendu, cette femme ne voulait pas ainsi vivre malheureuse en attendant son mari riche et hachichin ainsi. Donc, elle s'était arrangée pour avoir un jeune et bel amant bienveillant. Mais cet amant, tout parfait fut-il, était parcouru de temps en temps par d'étranges idées. Voilà l'exemple. Un jour, alors que le mari était ailleurs à chercher son hachiche, à le manger, et l'amant lui dit « Oh, j'ai un désir qui emplit mon âme et qui déborde de ma poitrine. Si tu m'interroges, je te dis. » Elle dit « Je t'interroge, alors je t'ouvre. » Cela me plairait que tous les deux, pour une fois, une seule fois, nous ne puissions, nous n'ayons pas besoin de nous cacher et que devant ton époux, nous soyons naturellement amoureux et amants. Il n'y a rien de plus simple. Tu viens ce soir avec ton arme à la main et tu te déguises en garde et tu cherches partout et tu cries. Et elle lui donne des conseils. Il s'en va. Elle attend. Et son mari rentre, plus pétri de hachiche que d'habitude. Et quand elle le voit entrer, elle dit, mon époux, que fais-tu là? Il dit, oh, mon épouse, comment je vais là, je rentre. Tu ne dors pas en crime, tu n'as pas entendu les crieurs des sultans? Quel sultan et quel crieur? Et au moment d'écoute, tu n'écoutes rien, mais tu lui achètes dans tes oreilles. Ne sais-tu pas que les crieurs du sultan ont dit que tout, la guerre est déclarée, tous les hommes doivent aller là-bas sur le champ qui se trouve derrière le palais du roi pour qu'ils deviennent soldats? On va leur donner des armes, on va les apprendre à se battre. Et tu dois y aller. Ma femme, comment je dois y aller? Je ne connais rien de la guerre. Mais on va t'apprendre, mon époux. Ah oui? Mais vois-tu que le roi connaît la gent humaine, il connaît les humains, il connaît que certains ont peur, et toi tu es de cette sorte. Et donc, ils ont ordre, les gardes, d'entrer dans les maisons et de chercher partout les maris. Et s'ils les voient dans leur maison, alors qu'ils ne devraient pas y être, ils les vont les chasser. Oh. Comment de chasser de... Oui, mais aux femmes. Et alors que dois-je faire? Mais c'est trop tard, mon époux. Car tu devrais déjà y être. Ah oui. Et que dois-je faire à présent? Je me remets à toi. Tu as bien fait, mon époux. Grâce à moi, tu es protégé. Sache que pour sauver ta peau, tu ne dois plus apparaître comme un humain. À partir de cette seconde, tu es un lampadaire. Et toi, femme, que dois-je faire? Retire tes vêtements, mon époux. Et retire tes vêtements. Assieds-toi contre le mur, mon époux. Et s'assois contre le mur. Ne bouge pas, mon époux. Ne bouge plus. Et elle lui pose sur la tête une lampe. Elle lui dit, reste comme lampadaire et ne te verra pas. Et à cet instant, tu ne connais pas. Tout ira bien. Et elle va ouvrir la porte. Entre l'amant, avec son sabre à la main, habillé en garde, qui se met à chercher partout. Oh là! Je cherche et je vais te trouver. Elle dit, non, tu ne trouveras pas, car il n'est pas ici. Oui, oui, je sais que je vais le trouver. Et tout heureux, l'amant voit le mari assis en lampadaire, tout nu, et il dit, oh, toi, femme, je sais que tu le caches. Non, je ne le cache pas. Et à ce moment-là, mais ça, cela arrive rarement dans la vie quand trois désirs se conjuguent. C'est-à-dire que le désir du mari, c'est qu'on ne le voit pas, enfin, que le gars ne le voit pas. Donc, de sa moitié de bouche de lampadaire, il dit à son épouse entière, ô toi épouse, agis de telle sorte qu'il n'ait pas l'idée de chercher plus avant et plus en détail, il ne me trouve pas. La femme de sa moitié d'oreille de femme entière, elle a entendu, et de la moitié de sa bouche, elle a répondu, oh mon époux, ne crois rien, ne vois-tu pas que depuis le début, je te protège et que tu ne risques rien tant que je. Mais pour ne que tu ne risques pas de mourir de peur, alors je vais faire davantage. Et l'autre désir, qui a conjoint les deux autres, était celui de l'amant qui n'en pouvait plus. Alors, elle dit à son mari de ce côté, pendant qu'elle dit à son amant de l'autre, autre mon époux, me permets-tu de l'occuper? Et le motif de lampadaire a répondu, autre occupe-le. Et donc, de l'autre côté, elle dit au garde, ô toi garde, pourquoi crier fort et faire croire à tous que tu es si terrifiant quand je suis bien certain que tu es plus tendre et plus vaillant que tu ne le montres? Laisse ton arme. Tu as, je suis bien certain, caché en l'épis de tes vêtements une arme autrement satisfaisante et qui ne risque pas de couper quoi que ce soit. Mais j'aimerais qu'elle puisse fendre ce qu'il y a à fendre. Car il y a parfois des roches qui ont besoin de petits coups de couteau. Ah, il me semble que toi, tu veux me parler d'autre chose que de la guerre. Mais je ne te parle que de guerre, ô toi. Puisque c'est de guerre dont tu veux parler, sache, et de sa moitié bouche, elle demande à son lampadaire, ô toi, es-tu satisfait? Et le lendemain, continue, je te prie qu'il ne me voit pas. Et c'est ainsi qu'elle dit à son amant, garde le glissant, dépose en cet endroit ton sabre qui n'est pas encore ruisselant. Et je te prie, eh bien, de t'allonger en cet endroit. Et évidemment, elle lui indique l'endroit exactement en face de lampadaire. Et lui garde cet allongé. Et demandant la permission à son époux, que le temps, n'est-ce pas, s'allonge jusqu'au matin. Et donc elle a mis un certain temps à retirer l'un après l'autre tous les voiles qui cachaient sa superbe nudité. Et c'est ce qu'elle fait en prenant son temps. Et le garde se calme et le lampadaire est soulagé. Et quand enfin tous les vêtements sont retirés, alors elle dit au garde, ô toi garde, il ne convient pas que tu restes habillé quand moi-même je suis là à te montrer qui je suis. Je te demande de retirer ce qui cache la tienne de nudité. Oh, toi, tu veux me corrompre? Elle dit, mais de quoi me parles-tu de corrompre quand tout simplement nous sommes seuls? Il n'y a que nous à cet endroit. Tu as raison, il n'y a que nous. Alors personne ne le saura. Et c'est ainsi que le garde a déposé son sabre idiot et a sorti sa lance. Alors il était de cette sorte qu'il y a plusieurs sortes d'humains. Je vous ai dit, tout se conjugue en ce moment. Donc il y a les humains. Ils ont une lance qui jaillit d'elle-même. Ils n'ont même pas besoin, alors, même pas la peine. Déjà, vous n'avez même pas l'idée de l'approcher que déjà la lance a pourfendu le mur. Et puis il y en a d'autres, il faut l'aider. C'est-à-dire qu'il faut soulager ce qui encombre la lance, c'est-à-dire ces deux citrouilles qui tombent jusqu'au sol, qui voudraient l'entraîner vers le bas. Voyez, il faut soulever tout le poids pour que la lance puisse enfin monter un peu. Voilà. Lui, c'est de cette sorte, d'abord de cette sorte tout à fait bien convenue, c'est que ces deux citrouilles étaient plutôt de l'ordre du peuple. Hein, c'est qu'il lui permettait que sa lance soit jaillissante. Et c'est ainsi que, jusqu'à la fin de la nuit, le lampadaire a béni son épouse d'occuper cet ignoble garde. Et au matin, tous les deux contentés ont fini par se désenlacer et se sont habillés. Voilà que le garde a repris son rôle, disant, oh toi, non, tu as bien voulu t'occuper de moi, hein? Tu as voulu me corrompre pour que je ne cherche pas en cet endroit. Mais j'ai cherché partout, je suis bien certain qu'il n'y a rien. Il n'y a que ce lampadaire de cuir de Chine. Elle dit, loin de moi, l'idée d'aller contre ta voix, mais il me semble que tu as mal regardé, car ce n'est pas du cuivre de Chine. C'est du cuivre de Perse. Comment? Tu ne sais pas de qui je suis le fils. Je suis le fils d'un fabricant de lampadaires en cuivre de Chine, et je peux vous reconnaître en cuivre de Chine au milieu de tous les cuivres de Perse que tu me présentes. Elle dit, je maintiens que ceci est un cuivre de Perse. Alors dis-moi, j'ai un moyen pour savoir si c'est le cuivre de Perse ou du cuivre de Perse. Et il crache dans sa main, et s'approchant du lampadaire, il donne un coup sur la nuque pour se venger de ce hachichin qui ne fait que leur gâcher la vie. le lampadaire a fait. Entends-tu le bruit? N'entends-tu pas que c'est du cuivre de Chine? Elle dit, tu vas m'attraper, je vais te montrer. Entends-tu la différence? Je vais vérifier. Et à la fin, bon, en fait, c'est-à-dire que faut quand même que nous restions en bonne compagnie d'histoire et que ces personnes ne deviennent pas des bourreaux, c'est la forêt, c'est facile, et je m'appelle sur son traîner, puis après l'autre il est mort, ah mais ça n'a pas voulu. Non, il faut pas jusque là, on ne peut pas se quitter sur des morts, après les polices arrivent, tout ça, parce que des ordres, vous allez être gênés, après demain il y aura des traces dans les journaux, tout ça. Donc, soyons calmes, voyez, juste quelques fois comme ça pour agrémenter. Et enfin, le beau joueur, le garde a dit, oh, toi tu as raison, je m'appelle. Et il est parti en claquant la porte. Lorsque les deux époux se trouvent face à face, la femme s'approche de son époux, disant, mon époux, ai-je agi comme tu le souhaitais? Ai-je été convenable? Elle dit, ma femme, tu étais tout à fait parfait. Ta femme était tellement occupée qu'il n'a pas pensé à regarder plus avant. Mais dis-moi, femme, moi j'ai une question à te poser. N'ai-je pas été un lampadaire parfait? Elle dit, mon époux, je te préfère en lampadaire. C'est ainsi qu'à partir de ce jour, lorsque l'amant venait, il y avait toujours un lampadaire. Mais alors parfois il était du cuivre de Chine, parfois il était du cuivre de Perse, et d'autres fois du cuivre d'Irak, et quelquefois du cuivre d'Égypte. Cela dépendait des jours et des nuits. Et le diable ne manquait pas d'être étonné de tous ces lampadaires qui ainsi... La vie est ainsi faite que certains trouvent leur bonheur à agir de la sorte, quand d'autres trouvent leur bonheur à ne pas être remarqués. Et il y en a un qui a, on peut dire, une excuse, c'est que c'est le hachiche qui lui imposait de rester assis comme un lampadaire. Vous allez me dire, il aurait pu ne pas en manger, sauf qu'il avait commencé et qu'il ne savait plus s'arrêter. Et quant au garde, qui n'en était pas un, mais qui aimait à jouer le garde, eh bien, ma foi, il faut dire la vérité, il trouvait cela plus intéressant d'être devant le lampadaire. Quant à l'épouse, une nuit, entre deux soupirs, elle regarde son époux, elle regarde son amant, elle se dit, et moi qui suis-je? J'ai l'impression d'être prise en enclume entre ces deux-là. Et l'on dit qu'elle est devenue évanescente. Car elle était si habile qu'elle pouvait se glisser entre un mur et ce qu'on aurait collé contre le mur sans que ce qui est collé se détache. Et c'est ainsi qu'au beau milieu des ébats avec son amant qu'elle aimait tant, elle a réalisé qu'en vérité, et cela, lorsque cela arrive dans une histoire, c'est tout à fait gênant. L'ennui était devenu l'habilité. Et que le lampadaire ne lui plaisait plus. Et que son amant finissait par se ressembler. Et donc, toute évanescente qu'elle était devenue, elle a laissé l'amant en pleine action et elle a disparu. Et l'on dit qu'elle s'est éloignée. Oh, elle a parcouru le monde. Et elle a connu tant et tant d'aventures qu'il faudrait au moins 1000 et plus nuits pour la décrire. Oh, ma sœur, que cette histoire est étonnante et que cette femme est fascinante en son plaisir, en sa sagesse. Cela n'est rien comparé à ce que je pourrais dire à présent. Il y avait autrefois, dans les temps anciens, dans les temps reculés, un homme qui avait
Aman farmaz da deli gönül farmaz farmaz da deli gönül farmaz.
duman aktı gözüm yaşı da gene kurmaz oy 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 oy. Aman benim hükmümde gene bu ellerde sana yürümez. Ay ay benim hükmümde bu ellerde sana yürümez. Vay babam yürümez oy 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 oy. Aman kaçtı gitti de göremedim boyunu. Kendi küçük de bilemedim huyunu. Yor 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 yor. Uy uy felek uy 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 uy. La 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 la. La 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 la.
Oui dire sur Radio Campus 93.3.
Ce poème turc mis en chant provient lui aussi de l'excellent album Les Rives de Titi Robin, dans lequel l'artiste est accompagné de grands musiciens traditionnels du Maroc, d'Inde et de Turquie. Ça donne envie de voyager tout ça. Dis-moi Fred, qu'est-ce qui pourrait nous retenir par ici dans les temps à venir ?
Plein de choses, plein de choses. D'abord, à ne manquer sous aucun prétexte, le spectacle de Micheline Denocq le vendredi 30 novembre au Centre culturel de Volvic à 20h30. Il nous contera Les Ravis, destiné à tout public à partir de 10 ans. C'est un beau spectacle qui met en scène les simples, les sots, les innocents. Et comme le dit Michel Audiard, heureux soient les fêlés, car il laisse passer la lumière. Et Micheline Denocq interviendra aussi l'après-midi pour les scolaires avec le spectacle Fruits Rouges. Nous avons aussi du 26 novembre au 2 décembre le festival Traces de Vie à Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte. Et si ce ne sont là véritablement des contes, ce sera néanmoins des récits de vie qui seront projetés pour le plaisir de tous. Et vous pouvez d'ores et déjà visualiser le programme sur le site de l'ISRA. L'Institut d'études occitanes du Cantal se prépare aussi à recevoir nombre d'artistes pour une nouvelle édition du festival de contes Las Rapatonadas à Aurillac et aussi dans d'autres communes du Cantal. Ce festival, qui accorde une grande place à la culture occitane, se déroulera du 12 au 18 novembre 2012. Chez nos voisins en Bourgogne, il y a le Festival des Contes Givrés qui se poursuit jusqu'au 10 novembre 2012 dans 56 communes de Bourgogne. Vous pouvez prendre des renseignements sur festival-contes-givrés.fr. Plus près de chez nous, à la bibliothèque Alexandre Vialat, à Aubière, Françoise Glière donnera un spectacle de contes « Tout petit pas » le mardi 13 novembre 2012 à 10h30 avec musique, chansons et comptines destinées aux tout petits. Et pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 04 73 98 36 37. 04 73 98 36 37. Et les conteurs font aussi des formations. Donc, Conte El País en propose au gîte de Joncherette en Haute-Loire avec Djihad Darwish, le 5 et 6 novembre, puis deux jours aussi en janvier et en avril, ainsi qu'avec Micheline Denocq, qui commence, lui, le 3 et 4 décembre 2012 pour se poursuivre en février et avril. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez là aussi téléphoner au 06 81 33 91 56. 06 81 33 91 56. Donc, n'hésitez donc pas à abandonner vos petits écrans et à régaler vos yeux et vos oreilles avec le spectacle vivant.
Merci beaucoup, Fred. Info de dernière minute, je crois que le stage avec Micheline Denocq est déjà complet. Il est victime de son succès, mais de toute façon, ça repart tous les ans, donc il ne faut pas hésiter à se tenir au courant. Et par contre, pour Djihad, il reste des places, n'hésitez pas. Il est bientôt l'heure de se quitter, alors Fred, on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine, je voudrais en faire toutes les semaines, moi. Au mois prochain?
Au mois prochain.
Merci beaucoup. Dis-moi, Laurent, qu'est-ce que tu nous prépares justement pour la prochaine fois?
Alors, la prochaine fois, je pensais vous parler des enfants perdus qu'on rencontre souvent dans les contes, des enfants qui sont perdus dans les forêts, qui ont perdu leur route. Et la parole du conte les aide à retrouver leur chemin, et souvent ils retrouvent leur chemin, pas toujours, mais enfin assez souvent. Donc comment la parole du conte est un accompagnement pour ce qu'on appelle la résilience.
Merci beaucoup Laurent, et vivement la prochaine émission qu'on en sache un peu plus. Pour ma part, j'en profiterai pour vous faire un petit compte rendu des rencontres nationales du conte qui se sont déroulées à Paris ce week-end et dont je rentre tout juste. Et j'ai presque failli oublier de donner la réponse à la devinette posée la dernière fois. Devinette qui était « Tant que vous me cherchez, je vis. Si vous me trouvez, je meurs. » Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont trouvé la réponse, mais Monique, je suis sûre qu'ils ont envie d'entendre le son de ta voix. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous donner la réponse?
C'est réponse.
Comment ça?
Réponse. C'est la réponse qui meurt quand je la trouve.
Ah. Merci beaucoup, Monique. T'avais trouvé, Fred?
Non.
Ah oui, et voilà. Alors, pour aiguiser votre esprit, en voici une nouvelle. Ouvrez grand vos oreilles. Il s'agit de jumeaux. Le frère est blanc, la sœur est noire. Et chaque matin, depuis la nuit des temps, le frère blanc tue la sœur noire. Et chaque soir, la sœur noire tue le frère blanc. Et pourtant, ils sont toujours vivants. Qui sont-ils? La réponse, le mois prochain. Monique, je profite encore un petit peu de ta présence. Est-ce que tu pourrais nous rappeler l'adresse mail de l'émission au cas où des auditeurs aient envie de nous envoyer un petit message?
Oui, bien sûr. L'adresse mail est ouidir93.3@gmail.com. Alors, ouidir, O-U-I-E-D-I-R-E. 93.3@gmail.com.
Merci beaucoup pour ta présence, Monique. Au revoir, peut-être à bientôt.
À bientôt.
Pierre, encore une fois, merci beaucoup pour ton aide. On continue?
Oui.
Tu reviendras?
Je pense que je reviendrai. Promis? C'est tout à fait probable.
Bien, et bien, en attendant de vous retrouver dans Ouïdir sur Radio Campus 93.3, on vous rend vos oreilles. Prenez-en soin. Dorlotez-les, chouchoutez-les, faites-en bon usage et pensez à nous les ramener la prochaine fois.
Oui dire.
C'est Radio Campus 93.3. Oui dire.